France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir le Covid long, en rappelant que cela fera demain 5 ans jour pour jour qu'apparaissait en Chine le premier mort du Covid-19. Et un peu plus tard, donc, nous avons découvert l'expression Covid long, c'est-à-dire un Covid-19 dont les symptômes persistent au-delà de 3 à 4 semaines. 250 000 personnes seraient concernées en France par ces Covid longs sévères. Des personnes qui se battent pour que leur pathologie soit plus facilement reconnue comme une affection longue durée. Alors comment réagir à un Covid long? Ça passe parfois par une prise en charge pluridisciplinaire sur le plan médical. Pas de solution miracle pour l'instant, mais du cas par cas. Enfin, nous demanderons à nos invités ce que vaut cette lueur d'espoir depuis que des chercheurs américains évoquent une ébauche de traitement de Covid long sur la base d'un antiviral déjà utilisé contre le Covid-19. Covid long, j'attends vos questions et témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec ce soir deux invités pour vous répondre, professeur Dominique Salmon, également Pauline Oustric, présidente de l'association Après J20. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Je vais vous présenter plus précisément dans un instant. Je voudrais d'abord que l'on écoute ce premier témoignage. Et on a souhaité vous entendre ce soir, Alan, quand on a préparé cette émission. Bonsoir Alan.
Bonsoir.
Vous subissez un Covid long sévère depuis 2021. Eh bien, décrivez-nous ce qu'est devenu votre vie quotidienne.
D'accord. Alors, on est 3 ans après et je souffre encore de multiples symptômes. J'ai encore une intolérance très sévère à l'effort, fatigabilité physique et cognitive très importante, etc., etc. Il faut savoir que je suis encore en fauteuil roulant. Je ne marche pas. Et je ne peux tenir debout que quelques secondes. Vous imaginez bien que ça a impacté ma vie quotidienne et celle de ma famille. Je ne peux plus travailler depuis. Je suis donc en situation de handicap et dépendant.
Vous étiez professeur des écoles, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et donc, évidemment, je ne peux plus travailler puisque je ne peux plus faire d'efforts. Et moi, les journées types, j'essaie de synthétiser une journée type, c'est quelques activités légères, pas trop énergivores, entrecoupées de périodes de repos complet et de périodes sous oxygène pour recharger un peu les batteries.
Combien de temps par jour devez-vous respirer sous oxygène?
Je respire 1h30 à 2h par jour.
Merci de ce premier témoignage, Alan. On va rester en ligne avec vous. On va vous retrouver dans l'émission car votre cas est éloquent. Nos invités donc ce soir pour vous répondre, professeur Dominique Salmon, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'Institut Fournier à Paris. Vous êtes également présidente du groupe de travail sur le Covid long à la Haute Autorité de Santé. Et nous retrouvons dans un instant également Pauline Oustric, qui est présidente de l'association Après J20, une association avec 2400 adhérents, J20 étant les 20 jours après le Covid, après l'apparition du Covid, et donc la stupeur de constater que les symptômes persistent. Professeur Salmon, comment la médecine peut prendre en charge un cas douloureux comme celui d'Alan? Je précise d'ailleurs que c'est un cas que vous connaissez.
Il y a plusieurs façons de faire, si vous voulez. Dans le Covid long, on commence à connaître vraiment maintenant les mécanismes de plus en plus. On sait que le virus va persister dans des réservoirs. Les gens ne sont pas contagieux, il n'y a pas de virus dans le nez, mais le virus se cache dans des réservoirs et donne tout un tas de désordres. Donc pour l'instant, on peut agir sur ces désordres, sur ces conséquences. Par exemple, Alan est obligé de se reposer, de prendre de l'oxygène parce que ses mitochondries ne fonctionnent plus. Et ça, c'est important. D'autres personnes font des réactions allergiques, donc on peut donner des antihistaminiques. D'autres ont des douleurs, d'autres ont une inflammation, on peut donner des anti-inflammatoires. Donc il y a déjà tous ces traitements symptomatiques qui aident les patients.
Mais vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une forme d'errance médicale, il n'y a pas de traitement spécifique.
Mais voilà, exactement, il n'y a pas de traitement spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le moyen pour l'instant de déloger ces réservoirs viraux, et la recherche doit se poursuivre pour essayer de trouver ces solutions.
Pauline Oustric, présidente de l'association Après J20, comment votre association et ses membres, hein, 2400 adhérents, vivent-ils cette errance médicale autour du Covid long ?
Merci beaucoup de nous donner la parole. Et tout d'abord, je voulais peut-être commencer par redonner un peu des chiffres pour qu'on comprenne bien la situation. Aujourd'hui, en France, on est 2 millions de Français qui sont touchés par le Covid long. Et ça, c'est sans compter les enfants. C'est 400 millions dans le monde. Et en effet, le chiffre que vous avez cité, c'est le nombre de malades qui sont en état sévère, 300 000 à 250 000. Et je pense que c'est important de redire ces chiffres parce que ça vraiment, ça montre l'ampleur de la situation aujourd'hui. Mais bon, au-delà de ces chiffres, parce qu'on ne soigne pas des chiffres, hein, on soigne des hommes comme Alan, des femmes, des enfants, on voit bien qu'il y a un énorme impact économique et social. Et c'est pour ça que nous, association Après J20, on s'est monté avec des patients pour répondre aux besoins des patients en travaillant avec les chercheurs, les médecins et les institutions qui aujourd'hui, ce sont un peu nous qui les poussons à communiquer et à avancer.
Et donc votre réaction face à ce qu'on a appelé ce soir cette errance médicale, vous la subissez, vous, votre association et vos adhérents évidemment ?
Bah nous, on la constate, on l'observe, on la mesure, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'y répondre, et on trouve que ce sont surtout les patients qui portent ce poids eux-mêmes d'essayer d'être acteurs de la santé, de trouver des solutions. Par exemple, nous, on met en place des groupes de parole, on répond par mail à des soutiens patients, on soutient les patients individuellement, on participe aux réponses de la HAS, au travail avec la ANRS, c'est-à-dire que voilà, en tant que patient, on a vraiment agi pour être acteur et faire avancer la situation, mais ça vient vraiment beaucoup de nous et pas assez des institutions qui pourraient communiquer. Parce qu'en fait, si on ne communique pas sur le Covid long, si on ne sensibilise pas, si on ne prévient pas, on ne pourra pas soigner les gens. Aujourd'hui, on a avancé depuis 5 ans. On a des guides, on a des chiffres, on a des parcours de soins. Mais si ce n'est pas connu, les patients qui vont aller voir leur médecin au quotidien, ils ne vont pas être compris, ils ne vont pas être pris en charge par faute de communication. Et donc, il faut vraiment avancer sur la sensibilisation.
Et quand vous parlez de la HAS, je rappelle que c'est la haute autorité de santé à laquelle collabore d'ailleurs la professeure Dominique Salmon. Vous souhaitiez réagir, professeur ?
Mais oui, vous avez utilisé le mot errance, et ce mot est très vrai. Et en fait, l'errance, elle est due à un défaut de communication, mais due au fait aussi que les gens, au départ, y compris les médecins, n'ont pas cru dans ce Covid-19. Maintenant, c'est quelque chose qui est établi. Il n'y a plus de raison du tout de le mettre en doute. Ça existe vraiment. Et on a réellement besoin que le ministère de la Santé aide la Haute Autorité de Santé, parce que la Haute Autorité de Santé fait des recommandations. Mais encore faut-il que ces recommandations elles soient appliquées, ce qui nécessite un financement, toute une organisation au niveau régional. Et donc, c'est ça qui est nécessaire, c'est de mettre en place...
Et national, et vous nous direz tout à l'heure à quel point vous pensez que les autorités ne prennent pas sûrement assez en compte cette maladie et ses évolutions. On va retourner pour reprendre des nouvelles de Alan. Je rappelle que vous avez un Covid long sévère depuis 2021. Alan, cette errance médicale, vous l'avez prise en pleine gueule ?
Oui, au début. C'est-à-dire que les premiers mois, personne ne répondait. On m'a même dit, j'ai vécu donc les premiers mois sans personne en fait. Hein, et les quelques communications que j'avais, c'était monsieur, il faut forcer, il faut marcher, il faut forcer. Et en fait, et après j'ai eu une période de rééducation classique, on va dire. Et en fait, ça a aggravé mes symptômes assez nettement à ce moment-là.
Comment ça, ça a aggravé vos symptômes ?
C'est-à-dire qu'au début, je faisais par exemple quelques pas. Je pouvais marcher 50 mètres, puis j'ai forcé, on m'a dit de forcer, alors moi je suis obéissant, j'ai forcé, j'ai écouté les médecins, j'ai fait de la rééducation classique, on va dire, vous savez, kiné, on fait beaucoup de mouvements, et petit à petit je me dégradais en fait. Je marchais de moins en moins loin, jusqu'au jour où j'ai plus marché, j'étais vidé.
Merci de ce témoignage encore une fois, Alan. Je me retourne vers le professeur Dominique Salmon. Il y a eu plus que des maladresses, sûrement au départ, des erreurs médicales.
Ça se comprend au départ, parce qu'on ne comprenait pas exactement ce qui se passe. Là, ce qui est très illustratif dans ce que dit Alan, c'est que ça témoigne d'un dysfonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites usines de l'organisme qui donnent de l'énergie. Et dans le Covid long, ces petites usines ne marchent pas du tout. Donc, Au contraire, il faut les économiser, récupérer de l'énergie et très souvent se reposer, fractionner les activités. Et au départ, on ne savait pas ça. Donc, on poussait les gens, on les rééduquait comme des sportifs et ça, c'était tout à fait contre-productif.
Le Covid long ce soir sur Inter, on en parle jusqu'à 20h au 01 45 24 7000. Camille nous appelle. Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'écoute.
On vous écoute avec intérêt.
Oui, et bah, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure à la personne qui m'a rappelé, c'est que moi j'ai un enfant qui est gravement malade depuis plus d'un an. Il a 11 ans et il ne marche plus, bah, comme le monsieur là qui vient de parler, comme Alan. Là, moi, il marche plus du tout. Depuis mars, il est en fauteuil roulant, depuis mars 2024. Son état s'est dégradé petit à petit avec une multitude de symptômes. Et il a été diagnostiqué Covid long il y a un an. Et ouais, et c'est dramatique. Et en fait, j'ai tenu à appeler parce que c'est terrible. J'ai même pas les mots pour décrire ce que mon enfant vit au quotidien, ce que nous vivons aussi en tant que parents et l'impuissance en fait qu'on vit.
J'entendais le cas. Merci de ce témoignage, Camille, de naufragé du Covid en travaillant, en préparant cette émission. J'ai souvent retenu ce qualificatif de naufragé du Covid. Ce que dit Camille aussi, c'est la multitude de symptômes. Il n'y a pas les plus fréquents, on les connaît, grosse fatigue, des douleurs persistantes, mais il y a une multitude d'autres symptômes.
Oui, parce qu'on est face à un virus qui atteint beaucoup d'organes. Par rapport, par exemple, à l'herpès, vous voyez qu'il donne essentiellement des manifestations cutanées ou de temps en temps le cerveau. Le Covid peut aller dans tous les organes. Donc, selon les patients, selon les organes atteints, on va avoir des symptômes très, très différents. En effet.
Et dans le cas de Camille, il s'agit aussi d'enfants.
Oui.
Est-ce qu'on a recenser tous les enfants qui sont victimes de Covid.
On manque beaucoup de données sur les enfants. On sait maintenant que les enfants peuvent être atteints. Peut-être un peu moins que les adultes, mais ils peuvent l'être. De bébés de 1 an ou 2 qui ont des douleurs abdominales, qui dorment trop, etc. Jusqu'à des adolescents qui sont en des décrochages scolaires et qui ont des gros maux de tête, etc. Donc, on manque vraiment de données. Et le traitement et la prise en charge doivent être les mêmes que pour les adultes, bien sûr dans des services de pédiatrie quand c'est possible.
Pauline Oustric, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Après J20. Souci aussi pour vos adhérents probablement de faire reconnaître une affection longue durée et spécifique au Covid long. C'est un peu un parcours du combattant ou est-ce que ça s'est simplifié ces derniers mois?
Ah non, c'est toujours un parcours du combattant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une affection de longue durée, donc une ALD, généralement hors liste, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est faite pour le Covid long, comme on en aurait une pour le diabète ou pour un cancer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être reconnu en affection longue durée si on explique bien quels sont les impacts, c'est-à-dire le coût que ça a au niveau du système de soins, les traitements coûteux qu'on prend, le nombre de médecins qu'on voit. Donc, il y a toute une liste, entre guillemets, de repères pour pouvoir avoir cette affection longue durée que nous, on met sur notre site, justement, pour expliquer comment faire et comment aider le patient, aider le médecin à faire reconnaître le Covid long en ALD. Mais malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que ça varie vraiment en fonction des régions. C'est-à-dire que pour un même patient avec des symptômes vraiment invalidants, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus aller au travail ou qui a dû limiter son temps de travail, qui est pris en charge sous oxygène, pris en charge au kiné, qui voit des médecins spécialisés à l'hôpital, donc vraiment qui a une prise en charge lourde, parce qu'une ALD, c'est pour une prise en charge qui doit être lourde et donc remboursée, on remarque qu'en fonction des régions, il n'y a pas le même retour. Il y a des régions pour lesquelles on a tous des refus et des régions pour lesquelles ça avance un peu plus vite. On a demandé justement à l'adresse encore cette semaine d'avoir des chiffres parce qu'il n'y a pas encore assez de chiffres sur le nombre d'ALD qui sont acceptés ou refusés. Et on a aussi commencé à évaluer les parcours de soins pour voir un peu dans les régions comment ça a avancé. Parce que c'est vrai que l'ALD, c'est un moyen de faciliter la prise en charge. Mais
expliquez-nous précisément ça, justement, Pauline Oustric. Qu'attendez-vous d'une reconnaissance de l'ALD, de l'affection longue durée? Ça change quoi concrètement pour le patient?
Concrètement, ça fait que les soins sont pris en charge et qu'il n'y a pas à débourser de l'argent en avance pour les spécialistes qui coûtent cher, pour aller à l'hôpital, pour les taxis. En fait, ça permet de faciliter la prise en charge au quotidien. C'est vrai que quand on n'est pas malade, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais eu affaire à ça, devoir aller en taxi à l'hôpital, devoir avoir des arrêts de travail plus fréquents. Voilà, l'ALD, elle permet d'avoir un soutien social et médical et surtout financier par rapport à la maladie. Et nous, ce qu'on demande vraiment, c'est que en fait, tout ce qui existe déjà en termes de prise en charge sociale et économique se soit adapté au Covid long, parce que maintenant, on arrive à 5 ans de Covid. On a beaucoup de patients qui sont à plus de 4 ans de maladie. Et donc, du coup, ils sont en fin de droit. Ils sont en fin de droit, par exemple, pour le congé longue durée, congé longue maladie. Et donc, du coup, ils se retrouvent sans rien. Et là, nous, avec ça, on est vraiment, on aide les patients, mais on a besoin d'aide par rapport à ça.
Et donc, vous avez le sentiment persistant que la société médicale, mais pas seulement, n'est toujours pas assez à l'écoute de ces cas de Covid long, sévère.
En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 4 ans. Maintenant, on ne peut plus dire que le Covid long, il n'est pas reconnu. Le Covid long, il est reconnu par les autorités, par l'OMS, par la Haute Autorité de Santé, par le gouvernement, par le COVARS. C'est reconnu, il y a plus de 200 symptômes, c'est identifié. Par contre, c'est méconnu sur le terrain. Et ça, c'est vraiment grave, parce que le fait que ce soit méconnu, même si on a des formations, des guides, des recommandations, c'est pas appliqué. Et donc, le patient, il va voir son médecin, et il n'est pas pris en charge, et on l'envoie bouler ou autre en disant que c'est dans la tête ou qu'on comprend pas ce qu'il a. Et c'est ça qui va pas. Et or, en fait, ce qui est vraiment frustrant au bout de 5 ans, c'est que maintenant, on a les ressources. C'est pas comme il y a 4 ans, on n'avait rien. Maintenant, on a ce qu'il faut. En tout cas, on n'a pas de traitement, mais on a des traitements symptomatiques et on a des guides, mais ils sont pas appliqués faute de sensibilisation et de prévention. Et s'il y a une chose à retenir vraiment, c'est que tout le monde peut avoir un Covid long. C'est pas uniquement les personnes fragiles, tout le monde. Et plus on a des infections, plus on a des risques d'avoir un Covid long, hein, 38% de risque à la troisième infection. Donc vraiment, tout le monde peut être concerné, c'est pas uniquement les personnes à risque.
Professeur Dominique Salmon, le milieu médical n'est pas assez formé pour détecter, accompagner, traiter ces cas sévères.
Oui, voilà, c'est pas assez formé, mais en fait, ça vient du manque d'incitation du gouvernement. Vous voyez, par exemple, pour d'autres maladies comme le VIH, les hépatites, les IST, il y a eu à un moment donné des plans d'action qui ont été faits, des coordinations qui ont été mises en place, et les ARS ont été vraiment incités à faire des actions. Des actions qui forment les médecins.
Les agences régionales de santé.
Des actions aussi qui aident les patients, parce que l'ALD, c'est sur le plan médical, mais ces patients, il faut aussi les réinsérer dans la société, les aider à changer de travail, à peut-être travailler à temps partiel, vous voyez. Donc, c'est tout un plan qu'il faudrait mettre en place, un plan Covid long, et il y a certaines agences régionales de santé, comme l'Occitanie, pour lesquelles ça marche bien. Le directeur de l'ARS Occitanie a mis en place plusieurs millions d'euros pour le Covid long. Donc il n'y a pas de raison que les autres ARS ne suivent pas. Si le ministère de la Santé les incite, ça devrait marcher.
Nous retournons au standard 01 45 24 7000. Carole est en ligne? Pas encore, je ne crois pas. Anne, peut-être? Anne?
Oui.
Vous êtes en ligne, Anne? Anne,
allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes sur France Inter, en direct. Quel est votre témoignage ou votre question?
Alors, c'est un témoignage pour expliquer qu'effectivement, moi, j'étais en très bonne santé il y a 3 ans. J'étais très active professionnellement, sportivement. Je faisais de la compétition de nage en mer. J'étais mère de famille. Et voilà, j'ai eu ce Covid long le jour de Noël 2021. Et j'ai jours de fièvre, mais rien pas d'état d'urgence, et j'ai jamais pu m'en remettre. J'ai fait, suite à ce Covid, j'ai fait des malaises, malaise sur malaise, et je pensais vraiment, je comprenais pas, je pensais vraiment aller mieux assez vite, comme d'habitude, et puis je n'ai pas évolué. Heureusement, moi j'ai pas eu de soucis avec mon entourage qui m'a écouté tout de suite, les médecins aussi, et donc j'ai eu une prise en charge, même s'il n'y avait pas vraiment de solution. Et j'ai entendu parler de la méthode d'énergie du pacing pour éviter d'aller au-delà de mes limites. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et malgré tout, j'ai mis plus d'un an et demi à comprendre cette notion de gestion de l'énergie, parce que c'est quelque chose de très différent de ce qu'on fait normalement quand on est en bonne santé. C'est presque un autre mode de vie, et donc c'est très compliqué à expliquer à l'entourage, aux amis, même professionnellement.
Et aujourd'hui, ça va un peu mieux ?
Et non, en fait, je suis alitée 17 heures par jour. Et mes 7 heures d'activité, je dois les fractionner en activités de 45 minutes maximum et des pauses de 30 minutes, comme l'a expliqué Alan au début de l'émission.
Merci beaucoup.
Cette pessime me permet quand même d'avoir réduit les symptômes et d'être stable. Voilà, mais c'est très bien. Merci beaucoup pour cette émission.
Merci surtout à vous de venir témoigner pour éclairer notre auditoire. Je vais me tourner vers Pauline Oustric, la présidente de l'association Après J20. Alors, on a entendu parler de cette gestion d'énergie, pacing. Expliquez-nous en deux mots pour qu'on comprenne de quoi il s'agit.
Oui, merci beaucoup de l'avoir mentionné. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, surtout pour les patients du Covid long qui sont souvent jeunes actifs. En fait, le pacing, c'est, on n'a pas vraiment de mot en français, mais c'est la gestion des activités. C'est-à-dire qu'il faut fractionner ces activités. C'est-à-dire dans une journée, on se lève, on prend le petit déjeuner, on s'arrête entre le petit déjeuner et après, on s'allonge. On va s'habiller, on s'allonge avant de s'habiller et après d'être habillé. La douche, c'est pareil. En fait, il faut s'imaginer la journée comme une somme d'activités et on fait des pauses entre. Donc, c'est vraiment pas ne rien faire de sa journée et se reposer tout le temps. C'est vraiment continuer à agir, mais en se reposant. Et je rebondis sur le fait que la personne a mentionné la difficulté parfois et qu'elle n'a pas eu, elle, de pouvoir en parler à son entourage ou à son entreprise ou autour de soi, parce que c'est vraiment un problème aussi de comment communiquer sur une maladie qui est invisible, qui ne se voit pas et qui est invalidante. On a rédigé avec les groupes de parole de l'association Après J20 un guide pour faciliter justement la communication avec l'entourage. Et je remercie tous les patients qui l'ont écrit. Il est gratuitement en ligne sur notre site, dans la page ressources communication. Et donc, du coup, ça peut aider. Ça parle du pacing, ça parle du Covid long, ça donne les parcours de soins, les guides et les références. Et du coup, ça peut être un premier outil de dialogue.
Et je renvoie aussi à votre application Long Covid Compagnon, qui est l'application donc, de l'association Après J20. On en reparlera peut-être dans un instant. Professeur Dominique Salmon, cette gestion d'énergie, ce pacing, est-ce qu'on a un peu un recul scientifique pour voir quelles sont les avancées?
Oui, c'est quelque chose qui existait déjà, parce qu'en fait, le Covid long fait partie des syndromes post-infectieux. Après d'autres infections préalablement, comme par exemple la mononucléose ou l'Ebola, le Zika ou le SARS-CoV-1, les gens ont eu comme ça des syndromes post-infectieux. Et le meilleur traitement jusqu'à présent disponible, c'était le pacing. Donc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. D'un Covid long très sévère, quand on applique vraiment cette gestion d'énergie, comme l'a expliqué Pauline,
c'est-à-dire qu'on fractionne son énergie pour ne pas tout dépenser d'un coup.
Oui. Déjà, il faut en faire moins.
Oui.
Hein, vous ne pouvez pas être grand sportif, journaliste en même temps, etc. Il faut faire des choix. Et quand vous avez fait ces choix, il faut vraiment fractionner les activités pour récupérer de l'énergie. C'est toujours cette histoire de mitochondrie qui doit se recharger en énergie. On ne peut pas mettre ses batteries à plat. Et donc, c'est quelque chose qui fait que d'un Covid long très sévère, vous passez à sévère. Et si vous l'appliquez très bien, à moins sévère. Donc, c'est quand même...
Une évolution positive.
Il y a une évolution qui est quand même positive.
Question...
Mais ça ne traite pas la base du Covid long, bien sûr. Hein.
Question de l'or sur l'appli France Inter, la vaccination contre la Covid. Je dis le, mais on va dire la Covid en principe. Hein. La vaccination contre la Covid protège-t-elle du risque de déclencher un Covid long?
Oui, si vous avez la chance d'avoir été vacciné avant d'avoir le Covid long, c'est vrai que le risque est très diminué. Par contre, si on a un Covid long déjà, la vaccination ne va pas traiter. Quelquefois même, va pouvoir entraîner une exacerbation transitoire.
01 45 24 7000. Le Covid long ce soir sur France Inter, on en parle jusqu'à 20h. Carole est en ligne. Bonsoir Carole.
Oui, bonsoir. Bonsoir à vous et merci beaucoup pour cette émission. Alors moi, je me permets j'ai deux questions. J'ai attrapé le Covid en février 2020, donc au premier cluster de la balme de Sillingy à Annecy. J'ai eu deux autres Covid derrière, deux autres Covid nouveaux connus. Je me bats pour une reconnaissance du Covid long. Ça fait donc bientôt 5 ans. Je vais bientôt avoir l'anniversaire. Je n'y arrive pas. J'ai tous les symptômes du Covid et je vous remercie sincèrement d'avoir parlé des multiples visages du Covid long, parce que moi, il m'impacte de la racine des cheveux jusqu'aux pieds.
En deux mots, je vous coupe.
Oui.
Dites-nous en deux mots quels sont les principaux symptômes de votre Covid long sévère.
Alors moi, j'ai la fatigue, bien évidemment, mais ce n'est pas la chose qui me dérange le plus. C'est que j'ai des infections sur infections, j'ai des atteintes multi-organiques, notamment au niveau digestif, au niveau articulaire, au niveau de la vue, au niveau ORL. En fait, j'ai des impacts multisystémique, ça atteint tous mes organes. Donc je le remercie sincèrement d'avoir parlé des multiples visages. L'errance nous mène à une chose, c'est qu'on a un impact physique, bien sûr, mais un impact professionnel, un impact financier. On n'a pas de reconnaissance, donc on ne peut pas faire du passing, parce qu'on doit se battre au quotidien. Et j'aurais une question à vous poser, c'est comment faire pour ne pas résister aux charlatans vers lesquels on risque d'aller, parce qu'à force, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on est jugé, on est psychiatrisé, parce qu'au départ, on a été psychiatrisé à force. Moi, j'ai eu un épisode très gravissime en décembre, donc on commence à me dire qu'il y a des choses vraiment bizarres qui se passent. Comment résister à l'appel des charlatans, qui sont nombreux à nous contacter, etc., ou à nous faire passer, à nous faire croire à des miracles. Et voilà, c'est une question que je vous pose parce que malheureusement, notre errance mène à un marché niche qui est celui de, voilà, des charlatans.
Merci.
Donc, je vous remercie beaucoup pour cette émission.
Manon,
merci
beaucoup. Nous qui vous remercions de ce témoignage que je vais soumettre à nos invités. Professeur Dominique Salmon, on voit bien qu'il y a plusieurs tiroirs dans l'intervention de Carole. D'abord, sur la non-reconnaissance de son Covid long. Elle dit qu'elle a infection sur surinfection, que ça se provoque et ça se propage à plusieurs endroits de son corps, des symptômes multisystémiques. Comment se fait-il que son cas ne soit pas encore répertorié ?
Répertorié, on ne peut pas répertorier tous les patients d'une même maladie en
tout cas,
France.
Elle dit qu'il n'est pas reconnu.
Mais reconnu, elle devrait, c'est Carole, vous devriez avoir au minimum l'ALD. C'est sûr, hein. Et donc le premier recours, c'est le médecin traitant. Il faut vraiment que tous les patients Covid long aient un médecin traitant, parce que les médecins traitants connaissent maintenant le Covid long, c'est dans les priorités du département, de l'agence de département continu des médecins que de se former sur le Covid long. Donc ils ne sont pas tous formés, mais c'est vraiment la première étape, parce que le médecin traitant va pouvoir ensuite vous envoyer vers des spécialistes. Et il y a des choses à faire. Autre que le charlatanisme, il y a quand même des traitements symptomatiques qui peuvent vous aider. Et c'est vrai que ce n'est pas de prendre tout un tas de compléments alimentaires, de pilules, de lumière, comme ci, comme ça, qui va vous aider.
Je vais me retourner à présent vers Pauline Oustric, la présidente de l'association après J20. On a entendu ce témoignage de Carole qui se désole, mais qui nous fait comprendre que pour un oui ou pour un non, elle serait prête à ouvrir la porte au charlatanisme. Dans votre association, ces charlatans aussi, ils sont identifiés ?
Ah oui, ils nous écrivent beaucoup d'ailleurs. On reçoit beaucoup de demandes de personnes qui veulent sauver les Covid longs avec un traitement miracle. Généralement, quand on nous propose ça, c'est que c'est forcément quelque chose de charlatan qui ne fonctionnera pas. Il n'y a aucun médicament miracle pour aucune maladie. On a justement essayé de proposer des guides de réponse qu'on donne aux patients pour qu'ils puissent comprendre si quelqu'un vient les voir et si c'est un charlatan ou pas. Donc on a un chatbot qui a été rédigé par des médecins, des patients, d'associations et des chercheurs, où justement on a une question sur les traitements. On l'a aussi mis sur notre site, et donc du coup, on essaye d'expliquer comment est-ce qu'on peut se questionner sur le traitement qu'on nous propose. Et donc du coup, on fait réfléchir d'où ça vient, quelle est la source, est-ce que ça coûte cher, est-ce que c'est prouvé. Voilà, on essaye de poser des questions pour que la personne puisse par elle-même vérifier que c'est un charlatan ou pas. Et ça me fait penser aussi en termes de reconnaissance, le fait de la non-reconnaissance, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout évoqué le fait qu'il faut sensibiliser aussi. On a parlé évidemment que le gouvernement aurait dû faire un plan national qu'il avait commencé, hein, mais qu'il n'a pas fini. Mais on n'a pas du tout parlé des établissements scolaires, parce qu'on a parlé des enfants. Mais pour l'instant, le grand vide, c'est qu'on n'a pas du tout de sensibilisation au niveau des établissements scolaires pour que justement les enfants puissent faire du pacing à l'école ou en entreprise, que les entreprises puissent sensibiliser et que les employés puissent faire du pacing au travail. Ça, c'est un grand flou actuellement. Il n'y a que Decathlon qui a un peu sensibilisé sur le Covid long et L'Oréal, mais on a très peu d'entreprises ou d'institutions et d'établissements scolaires qui l'ont fait.
Professeur Dominique Salmon, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je voulais dire aussi que concernant les traitements, il y a toute une partie qui concerne la recherche. Parce que là, on a parlé surtout du pacing, des traitements symptomatiques, des traitements aussi adjuvants qui sont quelquefois du charlatanisme. Mais il faut qu'on avance sur la vraie cause du Covid, donc qui est vraisemblablement que les personnes ont du virus qui persiste dans les réservoirs. Donc il y a beaucoup de patients atteints. Il y a, je dirais, entre guillemets, un marché. Et il faudrait vraiment que les industriels aussi se concentrent là-dessus et nous aident parce que on voit bien que les antiviraux qu'on a actuellement, c'est pas la solution, même si chez certains ça marche un petit peu, c'est très transitoire en fait, hein, mais c'est quand même une piste qui est à approfondir. Et vraiment, il faudrait aussi, en parallèle de la prise en charge de ce plan Covid long qu'on attend, que des essais thérapeutiques puissent être mis en place.
Ce plan national Covid long, il a été abordé, abandonné à la faveur des gouvernements successifs. Vous aimeriez qu'il prenne spécifiquement quoi en charge ? Vous en attendez quoi ?
Ah ben, à tous les échelons. On en a, au niveau du médecin généraliste, il faudrait qu'il puisse être formé, qu'il puisse avoir
une formation
longue.
Des médecins dès le généraliste.
Oui, longue. Il faudrait qu'il y ait des centres de compétences dans les régions, voire dans les départements où les patients puissent aller, des centres dans lesquels il puisse y avoir des médecins spécialistes, des kinés, des psychologues, des essais thérapeutiques, de la recherche, du recensement aussi. Hein, vous parliez de recensement, on manque de chiffres. Des centres aussi pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas les laisser de côté.
Et notamment le pouvoir ouvrir les écoles au pacing quand c'est dans les entreprises. Oui. Cette errance médicale, selon vous, professeur, elle peut encore durer longtemps ?
Oui,
c'est une question de moyens. Si... Vous appeliez les industriels, hein, les grands laboratoires, à investir un peu plus. D'abord en France, est-ce qu'on est capable aujourd'hui ou est-ce qu'il faut aller voir ça à l'étranger ?
Mais je ne sais pas exactement quelle est la raison de la non-prise en compte du gouvernement. Bon, c'est vrai qu'on a été confronté à des changements de ministériels très multiples. Mais on n'a plus maintenant une personne ou une cellule qui s'occupe du Covid long au ministère de la Santé. Donc je crois que c'est surtout ça qu'il faudrait qu'on remette en place. Qui est de ce fait-là, ça permettra d'avoir des liens entre l'HAS et le ministère de la Santé et d'inciter les ARS. Parce que les ARS, elles ont des budgets.
Les agences régionales de santé.
Elles ont chacune des budgets. Mais il y a une partie de ce budget qu'on appelle le FIR, qui est un budget un peu souple, qu'on peut mettre sur telle ou telle urgence sanitaire.
Et ça, déjà, ça permettrait de faire progresser la science. Je me retourne vers Pauline Oustrie, je vous pose la même question. Est-ce que cette errance médicale peut durer encore longtemps ? Vous aimeriez intervenir avec quel levier pour faire avancer les choses, si possible ?
Tout d'abord par un plan de prévention massif, comme on le fait pour d'autres maladies. En fait, tant que ce ne sera pas clair que le Covid long, ça peut affecter tout le monde et que du coup, les gestes barrières, le port du masque, même si nous non plus, on n'a pas envie de le porter, ça peut permettre de protéger et de ne pas être invalidé ou handicapé. Voilà, ça, c'est vraiment une première chose. Comprendre ce qu'est le Covid long et que la première chose pour l'éviter, c'est de ne pas avoir le Covid. Après, évidemment, la formation, on l'a mentionné. Les parcours de soins, on l'a mentionné, et la recherche surtout, il faut investir des sous dans la recherche. En France, on investit beaucoup moins de sous comparé à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux États-Unis. En France, on arrive à impliquer les patients dans la recherche. Nous, on est impliqués dans plus de 60 projets de recherche, mais ça ne suffit pas. On a très peu de projets de recherche sur les traitements. Il faut vraiment la sensibiliser sur le financement de projets de recherche sur les traitements.
Hugo est en ligne. Hugo nous appelle de Rennes. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Alors donc moi je voulais témoigner aussi, donc je suis Covid long depuis janvier 2022, donc là ça fait maintenant 3 ans, et donc j'étais un peu dans l'errance médicale au début parce que très peu de professionnels de santé avaient connaissance des effets du Covid sur le long terme, et moi pour ma part j'ai eu quand même la chance d'avoir un peu une amélioration de mon état grâce à un traitement un peu combiné à la fois et les antidépresseurs et donc l'accompagnement physique adapté, qui permet donc à des personnes malades en général, hein, pas que des personnes qui ont le Covid long, justement d'avoir un parcours de sport qui puisse donner un petit peu plus de confort en fonction des efforts que les personnes sont capables de faire. Donc c'est des rendez-vous qui se font 2 fois par semaine avec une demi-heure de vélo, une demi-heure de renforcement musculaire par exemple. Mais c'est des rendez-vous de sport donc suivis par des professionnels pour lesquels on va essayer de faire du sport mais sans pratiquer un effort trop intense, parce que sinon il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des difficultés, comme on a pu l'entendre avec Alan plus tôt dans l'émission.
Exactement, on l'a entendu un peu tout à l'heure. C'est un peu une note d'espoir, c'est-à-dire aussi on peut avoir un chemin qui s'éclaire, notre auditeur vient de l'expliquer, à base d'efforts surtout pas trop violents, il faut toujours adapter
le chemin de la guérison. Voilà. Globalement quand même, le Covid long finit par un peu s'améliorer. Pas guérir, hein. Les gens qui guérissent, c'est quand même encore très très rare. Mais globalement, les gens s'améliorent avec le temps. Et les gens qui sont très très sévères restent sévères, mais ceux qui ne sont pas sévères ne vont pas s'aggraver brutalement. Et je pense qu'il faut garder de l'espoir, parce que ça fait partie des syndromes de fatigue chronique. Syndrome de fatigue chronique, après d'autres maladies, tout doucement ça s'améliore, et la recherche va permettre des avancées. On a été confronté à des maladies catastrophiques comme le sida, les hépatites, on a fini par trouver des solutions. Donc avec le temps, si on investit suffisamment, je pense qu'on en trouvera.
Il nous reste quelques secondes, je voudrais vous demander quel crédit vous accordez, professeur, à ce qui a été présenté aux États-Unis comme une lueur d'espoir, ces recherches autour d'un nouveau traitement contre le Covid long, à base de Paxlovid, un antiviral déjà utilisé pour lutter contre le Covid.
Alors, c'est logique, on est devant une maladie virale, avec maintenant, il n'y a plus de doute du virus qui persiste dans des réservoirs, donc ça devrait marcher, mais les traitements antiviraux qu'on a maintenant ne sont pas du tout suffisants. C'est juste la première génération. C'est une piste intéressante, mais ça ne suffit pas. Il y a eu d'autres essais que celui que vous mentionnez, qui ont montré que 15 jours de traitement étaient insuffisants. Donc, approfondir avec des médicaments plus puissants, certainement.
Merci beaucoup de ces témoignages à toutes les deux. Professeur Dominique Salmon, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'Institut Fournier à Paris. Merci beaucoup Pauline Oustric, présidente de l'association Après J20.